Bonjour à tous. Je suis un peu impressionnée puisque je parle toute seule. Les autres, ils avaient quelqu'un pour leur tenir chaud à gauche et à droite. Je suis un peu impressionnée. Pourtant, je veux vraiment remercier les organisateurs de cette journée et les féliciter parce que je pense que cette journée pose vraiment des questions essentielles qui touchent à l'essence de notre travail. Alors, bien sûr, beaucoup a déjà été dit depuis ce matin. Et donc, je ne vais apporter qu'un modeste témoignage d'initiatives que nous avons pu prendre à Rennes. Avant d'en arriver, avant d'être tout de suite à Rennes, je veux peut-être partir de l'intitulé de cette journée, les bibliothèques, pardon, politique, parenthèse S, et bibliothèque. Ce qui veut bien dire que nous traitons depuis ce matin à la fois des bibliothèques et la politique, et des bibliothèques et les politiques. Ce qui, ça avait été rappelé ce matin, politique et polysémique. Mais du coup, nous naviguons depuis ce matin un peu entre les deux, et c'est normal. Et il a bien été dit que la bibliothèque était, enfin c'est écrit dans le chapeau de la journée, la bibliothèque est au cœur d'enjeux politiques. La gestion d'un établissement, sa programmation culturelle, ses orientations en matière d'acquisition, l'accueil des publics, etc., sont autant de mises en œuvre des décisions prises par les représentants politiques. Ce qui veut bien dire, et ça a été redit ce matin, que le cadre est posé par les élus, mais que nous avons la responsabilité de mettre en œuvre et de traduire en actes de programmation, de gestion, de pôle-doc, d'accueil, etc. Donc des choses extrêmement concrètes de notre vie de tous les jours. Donc comme je le disais, les questions sont passionnantes, essentielles. Si on prend le sujet des strates politiques aussi, qui a été pas mal évoqué ce matin, on se dit que ces différentes strates, qu'elles soient donc l'État, les régions, les départements, les intercos, les communes, toutes ces strates, elles convergent vers la République, vers la démocratie. En tout cas, en France, c'est le cas. Il n'est pas étonnant que nous ne soyons pas les seuls aujourd'hui, en ce moment, à nous poser les questions que nous évoquons. Vous avez peut-être vu, le 13 décembre, il y a une journée qui est organisée par Mediadis sur les évolutions sociétales et les bibliothèques, avec le sous-titre « Quelle responsabilité sociale, éthique et citoyenne ?» Et quand il est question de responsabilité citoyenne, il est question de bibliothèque républicaine. Donc on voit bien qu'on touche modestement à la République. C'est donc dans ce cadre de réflexion, et puis aussi pour des raisons conjoncturelles que je vais tout de suite évoquer, que l'intitulé de mon propos a évolué. Initialement, c'est une de mes collègues qui s'appelle Bénédicte Gornouvel, qui est conservatrice responsable du département des collections et de l'action culturelle à la Bibliothèque des Champs Libres, qui avait été sollicitée pour parler de la politique documentaire comme garde-fou démocratique au sein d'une table ronde. La bibliothèque, un acteur politique, point d'interrogation. Il se trouve que Bénédicte est indisponible et que j'ai repris la balle au bon, mais je suis beaucoup moins spécialiste de la pôle-doc que ne l'est ma collègue. Et du coup, j'ai proposé, et les organisateurs ont gentiment accepté, d'intituler mon propos « Des bibliothécaires engagés pour la démocratie ?» point d'interrogation. Parce que j'avais envie, à travers donc l'exemple rennais que je vais développer, de parler, comme je l'ai dit, de démocratie et de république, de neutralité et d'engagement, de bibliothèque et de bibliothécaire. Et au bout du compte, et cette envie, elle a été confortée par les différentes prises de parole depuis ce matin, j'ai envie de réévoquer quelques principes et aussi de parler de manière pragmatique. Nous touchons à des sujets complexes, pour lesquels je crois qu'il faut que nous gardions, que nous essayions de toujours garder une certaine prise de recul, Et en tout cas, essayons de ne pas verser dans un dogmatisme en voulant résister à certains dogmatismes. Vous verrez, je m'appuie, parce que vous allez comprendre pourquoi, pas mal sur les textes de Jean-Luc Gauthier-Jantès, qui a déjà été cité. Lui-même a écrit le cheminement de ses réflexions et à plusieurs moments a redit comme il fallait avoir des principes et de la souplesse pour tenir compte des réalités dans lesquelles on agit. Pour arriver à des choses concrètes, je veux maintenant revenir, pas en 1995 ou 97, là je ne sais plus, pas tout de suite, aux élections du Front National à Orange, Vitrolles et Marignane, mais aux attentats de 2015. Les attentats de 2015, chez nous comme partout, ont fait prendre conscience d'énormes fragilités, des fragilités de la société française, puisque des discours haineux pouvaient provoquer une violence allant jusqu'à tuer, et des fragilités de la laïcité républicaine. Et puis, nous nous sommes questionnés à partir de là sur la question, est-ce que les bibliothèques, les bibliothécaires, pouvaient apporter leur petite pierre à l'édifice. Et très rapidement, nous avons fait le constat qu'un certain nombre de nos collègues étaient démunis, que ce que nous avons appelé leur socle éthique, d'éthique professionnelle, était très faible, très peu solide. Parce que l'éthique professionnelle, elle ne fait pratiquement pas partie de la formation initiale. Et quand on évoque des sujets de pluralisme ou de neutralité ou d'engagement, on parle bien de l'éthique professionnelle et ça mérite qu'on soit nourri pour pouvoir se faire des convictions un peu solides. Alors très concrètement, quand on s'est posé cette question, est-ce que nous pouvions modestement agir après ce qui s'était passé, après les attentats, on a d'une part essayé d'un peu analyser notre politique documentaire, alors en réalité pas la totalité de la Poddoc, mais est-ce qu'on pouvait réellement considérer que nos collections étaient pluralistes ? Surtout dans deux domaines, les religions d'une part et puis la presse d'opinion et d'information générale d'autre part. Dominique Larry tout à l'heure parlait des trois acteurs possibles de la censure et le troisième qu'il évoquait c'était les bibliothécaires. Eh bien oui, nous sommes des sacrés censeurs. Nous avons donc procédé à quelques rééquilibrages dans nos rayons. Non pas que nous ayons supprimé des titres de presse ou des pans de nos collections, nous avons plutôt essayé d'enrichir dans un certain nombre de domaines. Il y a eu depuis un rapport de l'inspection générale sur les fonds religieux en bibliothèque, les fonds de religion, où il apparaît que les fonds sur le christianisme et le catholicisme en particulier par rapport au fond sur les autres religions occidentales, c'est un cheval, une alouette. Donc on a un peu enrichi nos collections, enfin nos fonds sur certaines religions moins représentées. Et puis on a aussi un peu rééquilibré notre offre de presse. Alors vous allez trouver ça bizarre, mais encore récemment, on vient de décider de nous abonner à une nouvelle revue, enfin nouvelle parce que nous ne l'avions pas encore, d'extrême droite. Nous en avions deux jusqu'à présent, nous en aurons trois désormais. Je vais revenir sur ces questions de pluralisme. Et puis nous avons affiché dans nos espaces un kakémono, et je demanderai tout à l'heure à Justine de le présenter. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc nous avons mené une réflexion sur quelques pans de notre politique documentaire. Et puis nous avons pris aussi des décisions de programmation culturelle. Nous avons programmé des rencontres, conférences sur les religions entre décembre 2015 et avril 2017, donc pendant deux ans et demi, des rencontres sur le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'athéisme, etc. Et une dernière qui clôturait ce cycle, que nous avions intitulé « Vivre ensemble avec les religions ». Nous avons d'autre part proposé 5 rencontres sur la laïcité, ou la manière de rendre concret le principe de laïcité. Ces rencontres ont été animées par un ancien élu qui avait été chargé par la maire de Rennes d'animer un conseil local de la laïcité. Donc sur des questions très concrètes, la laïcité dans les centres de loisirs, la laïcité dans les cimetières, la laïcité dans les prisons, enfin voilà. Et puis, comme beaucoup, j'ai bien le sentiment de ne pas être très originale en vous disant cela, nous avons décidé de développer l'éducation aux médias et à l'information. Puisque ça a été évoqué aussi ce matin, notamment par l'élu présente, le rapport un peu, comment dire, faible à une critique de la presse doit être, je pense, c'est quelque chose d'assez terrifiant, et je pense que nous avons vraiment une forte responsabilité dans le champ de l'éducation aux médias et à l'information. Et puis, et c'est peut-être cela qui avait un peu attiré l'attention sur les initiatives de ma collègue Bénédicte Gornouvel, elle m'a, dès le lendemain des attentats, en tout cas des attentats de Charlie, elle m'avait proposé de faire en interne des séances de formation pour, encore une fois, nourrir le socle éthique de nos collègues. Il y a donc eu 2 sessions qui étaient des sessions obligatoires. L'une sur le pluralisme en bibliothèque et l'autre sur neutralité et engagement. Pour ces sessions, sur lesquelles donc Bénédicte avait énormément travaillé, elle s'est beaucoup appuyée, comme je l'évoquais, sur les écrits de Jean-Luc Gauthier-Jantès, qui était l'un des inspecteurs généraux qui avait participé donc aux inspections générales dans les villes Front National. Ces écrits ont été republiés par la BPI en 2004, je crois. Il s'appelle « Une république documentaire ». Parmi ces textes, la lettre ouverte à une jeune bibliothécaire, qui reste un texte dont je vous recommande la lecture parce qu'il est très facile d'accès et il montre toute la difficulté du sujet et l'importance à la fois d'y réfléchir et de ne pas y apporter des réponses trop simplistes. Je suis un peu perdue dans mes notes. Je vais m'en sortir. Alors, dans le cadre de ces deux journées, c'est un petit peu cela que je vais développer. Il a été question donc de responsabilité professionnelle, de neutralité, de militantisme, et pour nourrir cela, Bénédicte nous avait proposé un petit peu de revisiter les textes fondateurs des bibliothèques et les textes fondateurs de la République. Et l'une de ces sessions se terminait par le visionnage d'une vidéo d'un collègue américain qui s'appelle David Lanks, que vous connaissez peut-être, qui dirige l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Caroline du Sud. Et David Lanks dit bien que pour lui, il n'est pas pertinent de dire que la bibliothèque s'engage à faire ceci, la bibliothèque s'engage à faire cela. Si les bibliothécaires ne s'engagent pas réellement eux-mêmes dans cette voie. Et c'est pour cela que j'ai retenu le mot bibliothécaire dans le titre de mon intervention. Et dans les engagements que nous pouvons prendre, il y a le fait de porter haut l'étendard de la laïcité. Et comme l'a dit Jean-Luc Gauthier-Jantès, la laïcité, elle ne consiste pas à tenir à distance, à exclure les professions de foi des religions et des idéologies. Elle impose de les mettre toutes à disposition. Et mine de rien, cela nécessite beaucoup de courage. Cela veut dire un peu de crédit, un peu d'espace, je n'en disconviens pas, mais aussi beaucoup de courage, parce qu'on peut rapidement être accusé par certains de vouloir légitimer, ou on peut être accusé d'offenser ceux qui ont été ou ceux qui sont la cible de ce que Gauthier-Jantès appelle les manifestations pathologiques d'un certain nombre d'idéologies. Et pourtant, ce n'est certainement pas l'absence totale ou quasi totale de ces idéologies qui permet de maintenir la paix civile. Et en même temps, cela fait, si on n'a pas ce courage-là, une sorte de neutralité par le vide, ce qu'il appelle une aphasie démocratique. Et donc, nous avons formulé et nous sommes mis d'accord tous ensemble sur le fait que nous allions adopter un parti pris subjectif, assumé comme tel et argumenté. Il pourrait y avoir d'autres partis pris, mais c'est celui-là que nous avons retenu, qui est de revendiquer, encore une fois, haut et fort, le pluralisme comme une condition nécessaire de la démocratie. Je peux peut-être, à ce stade, proposer à Justine de nous montrer le kakémono que nous avions donc décidé d'installer dans les espaces de la bibliothèque. Ce kakémono, avant de le mettre de l'afficher dans les espaces publics, nous l'avons évidemment commenté auprès de nos collègues pour qu'ils ne soient pas démunis s'il y avait, et il y en a eu, des commentaires, voire des remarques particulièrement désobligeantes. Et donc, nous avons expliqué qu'il s'agissait de titres qui ont tous fait polémique, dont certains ont connu la censure, et qui tous sont dans les collections de la Bibliothèque des Champs Libres. Les raisons des polémiques, elles sont diverses. Vous voyez bien qu'entre Tous à poil et puis le livre d'Éric Zemmour, les raisons de la polémique ne sont pas les mêmes. Mais tous ces ouvrages, pour lesquels nous avons, au bout de quelques temps, et je n'ai pas retrouvé une photo avec cela, nous avons ajouté un bandeau qui précisait que la bibliothèque possédait tous ces ouvrages pour les mettre à la disposition de ses usagers. Alors je reformule très mal, c'était pas comme ça comme cela que c'était écrit, mais en gros que nous prenions nos usagers comme étant des citoyens adultes et pleinement responsables mais qu'en aucun cas cela ne représentait une légitimation des idées véhiculées par tel ou tel ouvrage. Et ceci m'amène à dire que, bien sûr, de mettre un document comme celui-là, enfin un grand kakémono hein, qui pendait du sol au plafond, ça fait réagir. Nous avons eu des réactions vives parfois, mais nous avions construit le discours qui permettait, a priori, d'y répondre. Il n'empêche que nous n'aurions pas mis ce kakémono partout. Je pense qu'il y a des... On est sur des intentions qui sont complexes à mettre en œuvre, qui sont délicates et qui peuvent générer des débordements qui vont être difficiles parfois à contenir, voire des tentatives de prise de pouvoir. Quand Nicolas a tout à l'heure évoqué les différents groupes de pression qui sont de plus en plus actifs dans beaucoup de domaines, eh bien, il ne faut pas être naïf et imaginer qu'ils ne soient pas en mesure de réagir très très vivement. Et donc, il me semble qu'il est absolument indispensable de tenir compte de l'environnement social et culturel dans lequel on présente ce type d'initiative. Et pour moi, il y a une grande différence entre une rencontre à la Bibliothèque des Champs Libres ou un kakémono de ce type à la Bibliothèque des Champs Libres, une rencontre avec des intervenants spécialisés, et puis, pour aller peut-être au bout de du spectre, un atelier sur la liberté d'expression ou la liberté religieuse animé par une assistante dans une bibliothèque d'un quartier politique de la ville. Nous avons aussi, dans le discours auprès de nos collègues et puis dans les réflexions que nous leur avons apportées, repris donc encore une fois des éléments de Gauthier Jantès qui explique comment présenter des ouvrages ou des titres qui sont de manière évidente en opposition avec les termes de la devise de la République. Donc en opposition avec les notions d'égalité, de fraternité, etc. La condition qui nous permet de mettre ces ouvrages ou ces titres de presse à disposition, c'est que nous proposons l'éventail des opinions et que nous proposons des textes critiques comme antidote à ces idées qu'on peut considérer comme pathologiques. Et en partant du principe que c'est la juxtaposition de ces textes extrémistes ou sectaires qui peut contribuer à en affaiblir la portée. À chaque fois, on est bien dans la prise en compte d'usagers adultes en mesure d'utiliser la bibliothèque comme une sorte de version documentaire de la République, pour reprendre une expression de Jean-Luc Gauthier Jantès. Pour laisser la place à quelques questions, je vais du coup rapidement passer, je ne vais pas prendre tout ce que j'avais imaginé de dire. Peut-être revenir à l'entretien filmé avec David Lynx, où il parle de devoir de résistance au nom des valeurs de la République. Alors c'est un Américain qui s'exprime, il n'a pas la même culture que nous, fonctionnaires de la République française, ou fonctionnaires territoriaux. Il n'empêche que il parle dans cette vidéo de bibliothécaires engagés. Il évoque le printemps arabe en Égypte, au cours duquel des habitants de la ville d'Alexandrie ont fait une chaîne humaine autour de la bibliothèque pour empêcher les extrémistes de vandaliser la bibliothèque. Il évoque le rôle de bibliothèques américaines pendant des émeutes raciales. Donc il prend des exemples forts et il propose donc que ce soit non pas les bibliothèques, mais encore une fois, ceux qui les font vivre, donc les bibliothécaires, qui portent, qui revendiquent, qui mettent concrètement en œuvre les principes de la République. Cela, bien sûr, nécessite que la direction et les élus s'engagent. Cela nécessite évidemment que tout le monde, encore une fois, fasse preuve de courage et d'honnêteté. Et cela suppose que, en cas de pépin, en cas de grosse, de forte critique, on ait les éléments, les arguments permettant de faire revenir aux éléments fondamentaux de la République. Et pour terminer, avant de vous proposer d'intervenir à votre tour, je veux juste conclure par un extrait de Jean-Luc Gauthier-Jantès. S'il fallait réduire mes recommandations à une, ce serait celle-ci. N'attendez la lumière d'aucune autorité, réfléchissez. Pour peu que votre réflexion soit placée sous le signe des valeurs démocratiques, la liberté dans la responsabilité dans la liberté, et que les mobiles, la méthode et le résultat en soient exposés de bonne foi, il serait surprenant que ce résultat fût médiocre ou odieux. Je m'en tiendrai là. Je vous propose de continuer globalement à réfléchir.
Merci beaucoup pour cet apport très riche qui doit apporter beaucoup de réflexion ou d'écho dans les travaux, notamment internes aux bibliothèques, par exemple sur la politique documentaire, et puis sur toutes les notions essentielles, c'est le mot que vous avez utilisé au début, qui nous agite aujourd'hui dans la vie qui est la nôtre dans notre société, autour de ces valeurs de neutralité et de la notion de pluralisme. Y a-t-il des réactions ou des questions ?
Est-ce que Marine, tu pourrais revenir sur les réactions qui ont été celles du public face à ces kakémonos ? Est-ce que justement il y a eu des prises de position, des courriers, comme parfois ça peut arriver, pour contester la présentation de ces ouvrages ou le rééquilibrage des collections ?
En fait, les réactions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que chacune des personnes qui réagissaient voulait défendre à tout prix la présence de tel ouvrage et interdire à tout prix la défense de tel autre. C'est pour ça que je parlais de dogmatisme qui s'oppose. On n'a eu aucune remarque construite et argumentée sur le fait qu'on n'aurait rien dû avoir de tout cela dans nos collections. C'était à chaque fois une incompréhension sur tel ou tel titre en particulier, et bien sûr le fait, d'où le complément que nous avons rajouté, le fait que cela voulait dire que nous étions, nous, bibliothécaires, d'accord avec tout ce qui était écrit dans tous ces... Ah pardon, je montre, mais il n'y est plus. dans tout ce qui est écrit sur dans ces titres de presse ou dans ces ouvrages. Donc il a bien fallu préciser qu'il s'agissait d'une proposition pour que chacun se fasse un avis dans le cadre de ce que le Conseil constitutionnel reconnaît comme une condition même de la démocratie, c'est-à-dire le pluralisme.
Moi, j'avais deux interrogations sur justement l'ensemble des interlocuteurs de votre démarche. À la fois les élus, puisque vous avez parlé de tout le travail qui a été fait en interne. Mais je voudrais savoir comment vous allez travailler avec les élus et peut-être le conseil municipal de manière générale. Et de l'autre, en interne avec les agents, puisque ça peut potentiellement venir bousculer des convictions personnelles. Et comment on dépasse ces convictions personnelles quand elles abordent la posture professionnelle.
Alors, sur les élus, il faut que je rappelle que la Bibliothèque des Champs Libres est métropolitaine. La relation avec les élus métropolitains, elle est toujours plus distante que la relation avec les élus municipaux. Pour autant, les élus n'ont pas été totalement absents. Déjà, ils étaient informés de tout cela. Mais en plus, les rendez-vous laïcité, comme je l'ai exprimé, étaient animés par un ancien élu municipal, mais qui avait été chargé par la maire actuelle d'animer un comité local sur la laïcité. Comité qui a produit un document cadre pour l'ensemble des services de la ville. Donc, les élus étaient au courant et un ancien élu a participé. Ensuite, au niveau des équipes, il est clair que 100% des collègues n'adhéraient pas à tout cela. Soit pour des raisons de conviction personnelle, soit par peur des réactions des usagers. Et c'est là où je vais rejoindre probablement ce que disait Anna, partiellement en tout cas rejoindre ce qu'elle disait ce matin. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la direction qui a assumé et a imposé le fait que c'était la position de la bibliothèque et notre responsabilité étant à la fois de poser cela comme étant la position de la bibliothèque, mais aussi de nourrir, d'essayer de nourrir la réflexion de nos collègues pour que certains puissent dépasser leurs avis initiaux et pour que d'autres au moins aient quelques arguments dont ils étaient plus ou moins convaincus, mais quand même qu'ils aient quelques arguments à répondre. Pour autant, je le redis, ce ne sont pas des questions simples auxquelles on peut apporter des réponses simplistes. Et encore, quand il y a quelques semaines, on m'a fait valider un nouveau titre d'extrême droite. Oui, ok, on va y aller, puisqu'on a dit qu'on était qu'on posait le pluralisme comme étant un principe fondamental. Mais c'est à regret. Et je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'être à un moment tenté par une petite censure contournée, déguisée.
Il y a un terme important, Marine, que tu as exprimé, c'est valider. On ne valide pas. Et ça, c'est difficile pour les bibliothécaires parce qu'il y a l'idée qu'on valide ce qu'on commande. Or, on n'a pas à valider. Et c'est compliqué parce que c'est un peu contradictoire avec toute la démarche de l'EMI. Est-ce que les informations sont... est-ce qu'on fournit des documents factuellement exacts ou pas? C'est difficile de faire la différence. Donc, je la dévoile comme ça un peu dans le désordre, mais ça me paraît fondamental. Lors d'un congrès de l'ABF, il y avait une petite discussion de groupe sur justement Zemmour. Et des collègues disaient, on ne valide pas là-dedans, c'est faux ce qu'il y a dedans. Et je faisais partie des collègues qui disaient, non, on apporte les éléments du débat, nous n'avons pas à ne pas présenter les éléments du débat. Et on ne valide pas.
Alors, je pense que l'éducation aux médias et à l'information, elle s'appuie quand même sur le décortiquage le fait de décortiquer le traitement d'une même information dans différents organes de presse. Et c'est ça qui permet, à un moment, d'essayer d'avoir un peu de recul. Mais il n'empêche que, pour reprendre aussi un élément qui a été dit tout à l'heure, toutes ces revues sont autorisées. Évidemment, l'une de nos limites, c'est de respecter la loi. que ce soit pour l'âge de visionnement des DVD, que ce soit pour tel type de, enfin, pour tous les types de documents. Nous respectons la loi à partir du moment où leur publication a été autorisée. Nous estimons que nous n'avons pas à remettre de la censure. En revanche, nous avons à contextualiser, nous avons à diversifier l'offre, nous avons à éduquer, enfin, à proposer des ateliers d'éducation aux médias. Enfin, nous avons toute cette mission éducative complémentaire, mais en partant toujours du principe que le citoyen est adulte. Et il y a quand même un paradoxe à considérer que la bibliothèque serait un élément indispensable de la démocratie et dans le même temps, enfin ça c'est les démocraties un petit peu autoritaires qui estiment que dans le même temps les bibliothèques ou les écoles ne doivent délivrer qu'un seul discours.
On parlait d'éducation aux médias, mais je me demandais est-ce que dans une des bibliothèques, il y a aussi cette forme d'éducation aux médias pour les bibliothécaires, parce que à un moment donné, moi, ma spécialité, c'était la littérature jeunesse, et il y a un album qu'on trouve dans absolument toutes les bibliothèques, qui est 36 millions de visages de Speer. En fait, c'est un grand album avec plein de gens, et tout le monde dit, voilà, c'est pour... ça ouvre à tous les visages du monde, l'acception, etc. Et en fait, la page de garde... la première page, c'est Adam et Ève au paradis. Il se trouve que cet illustrateur américain est créationniste et que donc, pour lui, c'est tout à fait normal, c'est une position, etc. Sauf qu'en fait, cet album publié à l'École des loisirs qu'on trouve dans absolument toutes les bibliothèques de France, je m'en servais comme exemple en formation pour dire que toutes les pages d'un livre sont importantes et qu'il n'y a absolument aucune question sur le fait que cet album soit présent. C'est un très bon album pour enfants et effectivement, il est très, très intéressant pour l'ouverture au regard sur tous les visages, etc. Mais les bibliothécaires eux-mêmes, en fait, n'avaient jamais regardé cette page de garde et n'avaient jamais constaté ce début du livre sur cet aspect-là. Et ça m'incitait vraiment à leur dire, il faut vraiment tout regarder, ça fait partie de votre travail. Mais finalement, dans le cadre des processus de formation que vous avez fait, il y a eu ces deux sessions. Mais est-ce que des éléments comme ça de décryptage, on pense à faire des décrassages du personnel de temps en temps?
Alors, j'ai au moins deux éléments de réponse, mais je pense que d'autres dans la salle pourraient en avoir. Le premier, c'est que nous, comme dans toutes les bibliothèques, je pense que nous avons un plan de formation pour les siècles à venir. Hein, donc, il y a énormément de sujets que nous n'avons pas encore traités. Et puis, par ailleurs, je me permets de penser que ça n'est pas parce qu'il y a... Adam et Ève au paradis, que c'est forcément la trace d'un créationniste. Enfin, je pense que on peut, enfin, dans les livres pour enfants, il y a plein de choses qui sont pas vraies du tout. Enfin, le Père Noël, c'est pas tout à fait juste. Enfin, pas tout à fait. Il existe pas complètement. Les monstres et tout ça. Pour autant, on ne censure pas tout ce qui est faux. Enfin, je sais pas. Il y a...
Lui, enfin, aux États-Unis, ça pose question parce que lui, il est vraiment. Et du coup, il y a un gros débat aux États-Unis sur la présence de ses albums en bibliothèque. Là, c'était juste un exemple parce que c'est le plus frappant, mais c'est juste un exemple.
Oui, mais du coup, c'est là où je pense que ces sujets sont complexes et intéressants et fondamentaux et qu'on n'a pas une vérité absolue qui est donnée là tout de suite à 4h-20. C'est que, en partant de là, on peut arriver aussi à ce qu'évoquait Nicolas par rapport à la comment dire, à un débat qui n'est pas accepté sur la GPA ou à une diffusion du film de Polanski qui n'est pas acceptée non plus. On touche rapidement à la question de est-ce que ce sont les actes ou les pensées de l'auteur ou est-ce que c'est ce qu'il a produit. C'est une question, à mon avis, qui est vraiment très compliquée. Hein. Et quand on a mis... il me semble qu'on a Céline sur le... Voilà. C'est Céline parce que... écrit antisémite épouvantable, mais c'est Céline qui est quand même enseignée dans les lycées. Enfin, je veux dire, c'est pas, comment dire, c'est pas simple et il faut pas que ce soit simpliste. Et je pense qu'encore une fois, c'est pas parce que vous savez que c'est Peter Speer, l'auteur. C'est pas parce que vous savez qu'il est créationniste que le fait qu'il y ait cette vignette en page de garde, comment dire, rend caduque tout le reste du message.
C'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que le fait que les bibliothécaires ne l'aient jamais vu faisait que quand certains publics, certains parents leur faisaient la remarque, ils n'avaient pas de réponse. Parce qu'ils ne l'avaient jamais vu. Ah, le problème n'est pas l'album. Enfin, comme dit, c'est un super album, ça reste... voilà. Mais la question, c'était de ne pas l'avoir vu. Parce que du coup, si on vous interpelle, en tant que... Enfin, vous êtes quand même toujours censé avoir regard... enfin, savoir ce que vous avez et pouvoir avoir quelques outils pour pouvoir répondre en tant que professionnel. Si alors... vous n'avez pas vu, par contre, c'est un peu plus... Ça pose des questions.
Oui, mais alors là, je pense que d'une part, il faut que nous formions nos collègues en permanence, que nous vraiment que nous ayons un socle de réflexion et de connaissances constamment remis à jour. Ça, c'est une certitude. Mais d'autre part, il faut aussi que nous ayons la modestie de pouvoir dire, bah, écoutez, je ne sais pas ou je ne m'en étais pas rendu compte. Franchement, je pense qu'on est on a le droit de dire ça. Et puis j'avais une troisième idée, mais elle m'a échappé.
Merci beaucoup pour toutes ces réactions, débats. Merci pour votre intervention.